Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, la parole aux entreprises qui recrutent. Le club Média RH, Alexandre Lichamp.
Bonjour, bienvenue au club. On est ravis de vous retrouver comme chaque week-end. Eh bien, on va parler d'emploi, bien sûr, de recrutement, avec pour démarrer, mais pas seulement de recrutement, avec pour démarrer le groupe Partner. Cette entreprise a eu une excellente idée, et j'appuie, et je pense qu'il faudrait qu'on le fasse partout. Eh bien, c'est de faire entrer l'art dans l'entreprise. Vous allez découvrir ça avec Aurélie Gobinet, qui est vice-présidente de ce groupe, qui fait de l'emploi de l'intérim, qui emploie 900 collaborateurs pour 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On ira dans le détail. L'art dans l'entreprise, je suis pour. On va militer. En deuxième position, la découverte de Jean-Christophe Dupuis, que vous avez certainement déjà vu sur BFM Business. C'est le directeur de Microsoft 365. Il y est dans cette entreprise depuis 15 ans. Et il va analyser pour nous les résultats d'une enquête, d'une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle au travail. Enfin, on terminera par la start-up qui cartonne et qui recrute. Nous sommes ravis de recevoir Martin Beignet, qui est cofondateur et président de Holis, une plateforme qui permet de développer au mieux les produits. Voilà, il y a des postes à pourvoir. Voilà le sommaire.
BFM Business, le club Média RH, l'entreprise qui recrute.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Alexandre.
Aurélie Gobinet, alors c'est un nom composé, on va quand même le faire une fois. Aurélie Gobinet Gunner.
Gmünder, c'est Gmünder. Ça, presque ça.
C'est le nom de votre époux.
Exactement.
Et Suisse, c'est ça ?
Suisse-allemand.
Suisse-allemand. Ben, on est ravis de vous recevoir. Je disais en sommaire, vous êtes la jeune vice-présidente de groupe Partner. On va en parler, on va dire quand même quelques mots avant d'aller dans le vif du sujet qui est la raison initiale de votre venue, qui est cette histoire d'art dans l'entreprise qui me passionne. Je trouve ça formidable et on va faire une grande... Moi, je suis partant pour faire une grande opération nationale, dire qu'il faut faire entrer l'art dans l'entreprise. Il y en a marre des bureaux toujours les mêmes. Bon, il faut faire entrer la photo, l'art plastique, tout dans l'entreprise. On va y venir. Mais d'abord, peut-être parler de votre groupe, groupe Partner. C'est une entreprise du secteur de l'emploi, de l'intérim. 900 collaborateurs, j'ai bien dit les chiffres au début.
Ouais, c'est ça, c'est correct.
600 millions d'euros de chiffre d'affaires. Combien d'agences ?
On a 200 agences partout en France.
D'accord. Vous êtes spécialisé dans des domaines d'activité ou pas ?
Alors, on traite vraiment tout type de secteur. On fait du recrutement, du CDD, du CDI, travail temporaire. Et on va toucher aussi bien le tertiaire, donc les services, l'agro, le BTP, l'industrie, les transports.
Alors, j'aime bien, vous savez qu'on en a parlé, j'aime bien les entreprises familiales. C'est votre cas. C'est votre papa qui a fondé l'entreprise.
Exactement.
Le siège est à Orléans, j'ai oublié de le préciser.
C'est ça.
Vous êtes de la région, votre papa est de la région.
Exactement.
Ça a démarré, comme on dit, au fond d'un garage.
Plus ou moins. Mon père, il y a 35 ans, il a repris un petit fonds de commerce avec une agence de travail temporaire à Orléans, qui au début s'est un petit peu cassé la figure, puis a remonté, puis après, de fil en aiguille, il en a racheté.
À force de persévérance.
Persévérance, croissance organique, croissance externe. Et puis bah, maintenant, c'est une belle aventure qui continue.
4 pays, la France, la Suisse, la Belgique et le Luxembourg. Et enfin, autre chiffre, 58 500 collaborateurs intérimaires, dont 11 750 collaborateurs intérimaires en mission chaque jour.
Oui, c'est ça. Bah, en fait, les gens ne se rendent pas forcément compte, mais on est quand même le 10e acteur national au niveau des ressources humaines et du travail temporaire.
En France.
En France. Et donc, c'est vrai qu'on met énormément de personnes à l'emploi. C'est à peu près 15 000 candidats par mois que l'on place sur le marché de l'emploi.
Ça rend fier. Votre papa peut être fier. Et vous-même qui avez pris la relève.
Ah oui, bah, extrêmement
de
fier.
De dire que tous les jours, on donne du travail à des Françaises et à des Français, des gens qui vont aller travailler.
Et puis, c'est vrai qu'on traite aussi beaucoup de sujets, diversité, inclusion, engagement sociétal. Et c'est vrai que le marché de l'emploi, c'est très divers et ça nous permet de traiter justement des valeurs qui sont les nôtres et dont on touchera sur le sujet aujourd'hui.
Alors, je le signale parce que je l'ai reçu hier, c'est tout chaud, un communiqué de presse de votre agence, pas la vôtre.
Du syndicat professionnel
qui s'appelle...
Le Prisme Emploi.
Prisme Emploi. Voilà. Et vous avez un syndicat professionnel qui mène des enquêtes. Et j'ai les résultats du baromètre Prisme Emploi de mars 2023. Donc c'est vraiment tout chaud. Avant de parler de l'art dans l'entreprise, je vais vous donner les chiffres. L'emploi intérimaire représente 743 800 équivalents temps plein en France en mars 2023. L'industrie enregistre une augmentation de 1% de ses emplois intérimaires. Vous confirmez ?
Je vous le confirme, et on voit le travail intérimaire, en fait, en général, on est en lien avec l'activité économique, et on voit bien que depuis 2 ans, cette reprise, elle a repris après le Covid, et nous, les carnets de commandes de nos clients sont pleines.
Alors, on dit que quand le bâtiment va, tout va, c'était la vieille formule de M. Bouygues. Est-ce qu'on peut dire que quand l'intérim va, ça veut dire que ça redémarre ?
Tout à fait.
Que les besoins sont là ?
Oui, c'est vrai. La parallèle se fait.
J'ai vu dernier chiffre qui m'intéresse, c'est que le taux d'emploi senior s'est amélioré pour atteindre 53,8% pour la tranche d'âge 55-64. C'est important les seniors pour vous ?
Les seniors, aussi les personnes en situation de handicap. Je pense qu'avec la pénurie de talents actuelle, les gens vont aller chercher un petit peu plus loin que juste le CV, et on va aller chercher sur les compétences. Et les compétences, on les retrouve auprès de toutes les personnes du marché de l'emploi qui n'étaient peut-être pas forcément considérées auparavant.
Alors, vous recrutez vous-même, vous continuez à recruter pour vos clients, grandes et petites, c'est ça ? C'est aussi bien des grands groupes que des petites ?
C'est vrai, on traite, voilà, donc nous, on est nationalement présents partout, donc on va avoir des grands comptes, des grandes entreprises, mais également des petites entreprises locales qui vont chercher un peintre ou une assistante de direction ou un DG.
Alors, vous avez prononcé le mot qui va me permettre de faire la liaison. Vous avez dit qu'il cherche un peintre. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet, la raison pour laquelle je suis ravi de vous avoir. Et je vous envoie un grand coup de chapeau. Je suis sincère. Hein. C'est que vous avez eu la bonne idée de faire appel, d'ailleurs, on va en parler, à une entreprise spécialisée qui s'appelle By Art, c'est ça ?
By Art.
Eh bien, de faire entrer, et c'est un mouvement, hein, chez vous, il est sincère, de faire entrer l'art dans l'entreprise. C'est-à-dire que, on va aller dans le détail, c'est pas une opération ponctuelle. C'est quoi le principe ? Expliquez-nous.
Alors, déjà, nous, c'était en lien avec le fait qu'on a déménagé de siège. Donc, on avait un siège historique et là, on a emménagé dans un nouveau siège.
Moderne,
avec des espaces de coworking, déclôturés, avec des espaces ouverts. Et l'idée, c'était en fait d'amener cet aspect d'innovation et d'ouverture d'esprit en intégrant l'art dans l'entreprise.
Alors, c'est un... j'aime bien vous dire, c'est la valorisation humaine, mais c'est la valorisation de la vision artistique de l'entreprise.
C'est vrai. Et en fait, ça nous permet, de manière allégorique ou métaphorique, de passer des messages avec une touche d'humour ou un trait de créativité, et finalement d'amener des choses qui sortent du quotidien et qui permettent de relier en fait nos collaborateurs quand ils sont assis dans notre siège.
Alors vous avez travaillé main dans la main. Avec cette société By Art. Alors c'est original, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business TV, on voit des images d'ailleurs de vos locaux avec, alors il y a des photos, c'est ça, c'est plutôt des photos artistiques.
Exactement.
Il n'y a pas de tableau, vous n'avez pas des Rembrandt ou des Picasso.
Non.
Pas encore.
Non, pas encore.
Pas encore, voilà. Vous pouvez avoir des répliques, remarquez. Enfin, en tout cas, c'est un début. Le siège est hyper moderne. J'imagine qu'il est aux normes actuelles. C'est toujours un peu froid, un siège social moderne.
Oui, alors nous, on l'a conçu dans un espace de verdure.
Oui.
On a vraiment voulu que nos collaborateurs se sentent bien. Et on a tout pensé, voilà, de manière ouverte et que ça puisse favoriser la créativité, l'innovation et la collaboration entre nos collaborateurs.
Alors, c'est illustrer le savoir-faire de partenaire, votre entreprise, Aurélie, dans les ressources humaines. Et vous avez choisi donc des photographies d'art en lien avec les métiers du groupe.
Exactement. Donc, on a choisi
des
œuvres. Voilà,
il y a un catalogue et vous avez puisé dans ce catalogue d'artistes.
Exactement. Donc, le groupe partenaire, on a travaillé avec By Art, qui nous a proposé, en fait, on a soumis notre brief. On a dit, voilà, on veut des œuvres colorées, des œuvres plutôt chaleureuses.
Des œuvres qui vous ressemblent.
Qui nous ressemblent, qui sont aux valeurs de notre groupe, à savoir l'innovation, la collaboration, la créativité. Et ensemble, on a travaillé, en fait, sur le choix des œuvres. Et en fonction aussi des étages, on s'est permis aussi des clins d'œil. Dans la cafétéria, on s'est dit, voilà, c'est un espace de bien-être où il y a nos collaborateurs, donc on a mis des œuvres assez colorées. Et puis au dernier étage, qui est souvent un peu plus celui de la direction, on a voulu être un petit peu fun et décalé. Et du coup, on a mis des œuvres un petit peu plus originales qui permettent d'avoir un petit côté dérisoire et dire qu'en fait, on ne se prend pas au sérieux, qu'on est là, on sert le marché de l'emploi.
Et c'est quelque chose que vous allez conserver. Et vous allez conserver parce qu'il y a aussi, en même temps, la partie financière, il faut l'aborder. Elle est originale aussi, l'approche. Vous n'avez pas acheté des œuvres d'art, vous les avez louées.
C'est ça. Donc en fait, le principe, c'était aussi un choix financier. Oui. C'est qu'en fait, on fait un leasing ou c'est une location d'œuvres d'art ou de photographies. Nous, on l'a choisi, la période, on peut la choisir. Nous, on l'a fait sur 3 ans. On s'est dit que c'était un bon temps pour
profiter. C'est une sorte de leasing.
Exactement. Et ça permet en fait d'amortir et d'avoir en fait un loyer mensuel pour ces œuvres.
Oui, oui.
Et après, on peut l'échanger. Donc nous, dans 3 ans, ça nous permettra d'amener du renouveau, de l'échanger et puis de faire évoluer le siège au fur et à mesure des années.
Oui. Comment réagissent les collaborateurs de l'entreprise ? Est-ce qu'ils sont satisfaits ? Est-ce qu'ils ont...
Alors nous, ils sont enchantés. Enchantés parce que ça leur permet de sortir du quotidien et puis d'évoquer des sujets qui sortent forcément de leur projet du jour le jour.
Oui, et ça donne un peu de couleur, comme vous dites. Il y a des couleurs, c'est l'art, quoi. L'art dans l'entreprise. Oui. Ça va bien au-delà. Alors, vous dites que ça véhicule les valeurs, ça, j'y crois absolument. Les valeurs de votre entreprise, puisque vous avez choisi. Les collaborateurs ont participé au choix.
Alors, c'était vraiment plutôt, quand même, mon choix avec aussi la personne qui s'occupe des moyens généraux. Oui. Parce qu'il y a un moment, il faut aussi se positionner.
Bien sûr.
Mais après, c'est vrai qu'on a aussi imaginé certaines œuvres, plus pour certaines équipes. Donc, par exemple, l'équipe marketing communication, on a mis des œuvres, c'est des petites annonces, et c'est quelqu'un, un photographe qui partait à la rencontre de personnes qui postent des petites annonces, et c'est un petit peu décalé avec l'idée en fait qu'on veut renvoyer du marketing.
Aurélie Gobinet, pour revenir sur le business, est-ce qu'il y a aujourd'hui, quelles sont les tendances, les emplois les plus demandés par secteur aujourd'hui dans l'intérim, c'est quoi ? Quelles sont les entreprises qui elles ont besoin de quoi ?
Alors, les métiers qu'on retrouve le plus, ça va être dans l'industrie, les techniciens de maintenance, les personnes aussi qui vont aider pour toute la chaîne logistique.
Les opérateurs de production, les
exactement.
Les
et
machines.
Puis dans le second œuvre, on a beaucoup les peintres,
les maçons,
voilà, et tout type de secteur. Puis aussi au niveau assistant de direction, comptabilité.
Oui. Et dans le tertiaire aussi, les téléconseillers.
Exactement, oui.
Conseiller, assurance comptable, etc.
En fait, il n'y a pas un secteur en ce moment qui ne recrute pas, donc on est plutôt bien porté.
Comment vous expliquez d'ailleurs que d'un côté on dit qu'on a besoin de 300 000, on disait 300 000 postes à pourvoir et qu'on n'arrive pas à trouver ?
Alors, il y a.
C'est autre chose, ça.
Alors après la Covid, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont redirigées vers d'autres types d'emplois, qui ne sont plus prêts à prendre qu'à avoir des compromis sur les horaires, sur le salaire. Et donc, on voit qu'il y a quand même toute une repartie, une reconversion professionnelle. Et cette reconversion professionnelle, il faut l'adresser. Et nous, on met en place beaucoup de formations pour aider à bouger sur ces secteurs.
Aurélie Gobinet, vous restez avec nous. Bravo.
Avec plaisir.
Vous ouvrez la voie. J'espère que beaucoup d'entreprises, de responsables d'entreprises qui nous suivent, auront envie de vous imiter et vous nous dites que ça marche, ça plaît aux collaborateurs, ça vous plaît à vous. Et faire entrer l'art dans l'entreprise, j'y crois. C'est un vrai combat. Vous restez avec nous.
Merci Alexandre.
Microsoft, vous connaissez, bien sûr.
Bah oui.
Bon, on va parler de Microsoft 360 avec une enquête. Une étude, c'est le décryptage.
BFM Business, le Club Média RH, Décryptage RH.
Bonjour Jean-Christophe Dupuis.
Bonjour Alexandre.
Je suis ravi de vous rencontrer, c'est la première fois, voilà. Mais vous connaissez bien la maison, parce que d'après ce que j'ai compris, que ce soit auprès de mes camarades Simotel et les autres, bien sûr que tout ce qui touche à Microsoft, dès qu'il y a du news, ça touche, ça intéresse mes confrères et consoeurs.
Ouais.
Alors là, on n'est pas là pour parler, bien qu'on pourrait parler de recrutement avec vous, puisque j'imagine qu'il y a des postes à pourvoir, mais on n'est pas là pour ça. C'est une enquête intéressante que vous avez menée, une étude.
Oui.
Peut-être un mot sur ce que vous...
Sur cette étude ?
Pour vous, d'abord sur vous. Vous êtes vous, Jean-Christophe Dupuis. Je disais que vous étiez dans l'entreprise depuis 15 ans.
Un peu plus.
Et vous êtes à la tête d'une équipe qui s'appelle la 365, Microsoft 365.
365, oui.
Quelques mots là-dessus.
Donc en fait, c'est l'ensemble des outils de productivité qu'on va avoir, et plus particulièrement dans le cloud, donc des produits très connus comme par exemple Outlook, Excel, PowerPoint.
D'accord.
mais aussi Teams, qui nous a beaucoup aidé pour le travail hybride.
Ah ben ça, pendant le Covid, ça...
Il continue à nous aider aussi.
Oui, j'imagine. Ça représente... c'est un énorme marché mondial.
Oui, c'est un gros marché. C'est un gros marché.
Mondial.
Oui.
Et vous employez combien de personnes en France, au passage? C'était pas prévu.
En France, on a à peu près 1100 collaborateurs.
Ah oui, quand même.
Pour la France.
Pour la France.
Il y a un peu plus de monde basé en France, à Issy-les-Moulineaux, quelques minutes d'ici, mais qui travaillent pour d'autres entités ou d'autres pays. Mais en tout cas, pour la France elle-même, c'est 1100 collaborateurs.
Alors, vous avez mené une étude sur l'impact de l'intelligence artificielle au travail. On n'en est qu'au début. Alors, et qu'est-ce que dit cette étude?
Cette étude, déjà, c'est une étude qu'on l'a fait.
Et pourquoi?
Tous les ans.
D'accord.
Tous les ans, on fait une étude qui s'appelle, dans son petit nom, c'est Work Trend Index. Donc, c'est en gros les grandes tendances du monde du travail sur une année.
D'accord.
Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu les résultats il y a quelques jours pour justement l'édition 2023. Et cette année, on avait décidé de de poser quelques questions autour de la perception de l'intelligence artificielle dans le travail. Et il nous en est sorti trois grandes tendances.
Oui.
Si je peux les développer là.
Allez-y, on est là pour ça.
Alors, une première tendance qui est très liée à la façon dont le travail hybride s'est mis en place. En gros, si on regarde les deux dimensions dans lesquelles on travaille, c'est le temps et l'espace.
Oui.
Avant, on était plutôt fixe, avant mars 2020, avant la pandémie.
On était au travail dans l'entreprise.
Voilà, on est devenu flexible, dans un environnement flexible. Alors, c'est bien. Mais ça a amené beaucoup de complexité,
c'est-à-dire
beaucoup d'informations, beaucoup trop d'informations. Mmh. Et le premier enseignement de cette étude, c'est tout simplement des collaborateurs qui disent... Alors l'étude, juste, je rappelle, elle est sur 31 000 collaborateurs dans le monde, 31 pays, dont la France. Donc on a des résultats franco-français. Et 64%...
Est-ce qu'ils sont différents d'ailleurs au passage, pardon?
Alors je vais vous donner exactement la différence.
Est-ce qu'ils sont différents par rapport aux... Oui, allez-y.
Il y a des similitudes et des fois des différences.
D'accord.
64% des collaborateurs en France disent « Moi, vraiment, dans une journée de travail, j'ai pas assez de temps pour la créativité, l'innovation. Je suis noyé. J'essaye, en fait, de capturer l'information importante dans la journée, mais j'ai tellement d'outils de communication et je reçois tellement d'informations que j'ai pas ce temps-là. » Le chiffre mondial, c'est 68% qui le pense.
C'est énorme.
C'est très proche.
C'est énorme.
Si vous regardez dans une journée le temps qu'on va passer sur...
Une journée de travail.
Une journée de travail. Donc là, je vais vous prendre des outils maison, donc Teams, des messages dans Outlook, des meetings dans Teams ou du chat dans Teams. C'est 57% de la journée.
Waouh.
Alors que vous n'allez passer que 43% de la journée à produire quelque chose avec d'autres outils. Donc vous voyez déjà là il y a un souci.
La prise de temps est énorme.
Et à côté de ça, les dirigeants disent, nous, à peu près la moitié des dirigeants disent, qui ont été interrogés, on voit qu'il y a un vrai sujet autour de ce manque d'innovation impacté par justement ce peu de temps qu'ont les gens pour se poser, réfléchir, être créatif.
Alors, question toute bête, Jean-Christophe Dupuis, soyons, au ras des pâquerettes. Prenons un exemple concret. Quand vous dites combien, 58%
Des Français qui ont
64%. 64%. Mais ça veut dire quoi? Vous avez cité les outils. Alors, soit on est devant son ordinateur, Microsoft, avec les outils Microsoft, mais ça veut dire que on est plongé dedans, quoi. On ne peut pas faire autre chose. Les échanges avec les visios, sans oublier le mobile, etc.
Un chiffre qui va vous parler, c'est sur l'année 2022, entre 2021 et 2022, on a vu 140% de plus de meetings qui se chevauchaient.
Wow.
Vous voyez, c'est-à-dire avant on avait un agenda un peu compliqué, mais il s'est encore plus complexifié. Et rien que alors des chiffres comme ça, j'en ai plein, mais celui-là déjà est très parlant. Et le deuxième enseignement, le deuxième enseignement, c'est autour de, puisque c'était votre question initiale, autour de l'intelligence artificielle. Et plutôt une bonne nouvelle, 60% des Français interrogés. Alors là, on est un peu en dessous de la moyenne mondiale qui était à 70, considèrent que l'intelligence artificielle va les aider à faire des tâches répétitives. Je vous prends un exemple. Vous rentrez de congé, vous n'avez pas ouvert vos emails pendant une semaine, eh bien vous allez pouvoir avoir un outil qui va vous donner le résumé de ces emails. Donc ça, c'est
ça va sortir, ça n'existe pas encore.
Ça arrive, ça s'appelle Microsoft 365 Copilot, on l'a annoncé il y a quelques semaines.
D'accord.
Donc ça, déjà, vous voyez, au niveau d'un individu, c'est plutôt le bonheur, mais au niveau d'une organisation, c'est encore mieux. Et en revanche, certains pensent qu'il y a quand même un danger, l'intelligence artificielle.
Bien sûr.
Mais les Français sont moins craintifs que la moyenne mondiale, puisque les Français à 38% le pensent que l'intelligence artificielle peut impacter leur métier, alors que la moyenne est à 49% au niveau mondial.
Et comment vous l'expliquez, ça, que les Français soient moins inquiets d'une certaine manière? Vous avez une explication, je me tourne vers Aurélie Gobinet, vous qui écoutez avec attention notre ami.
Moi je vois mes équipes, ils ont déjà pris à bras le corps les éléments d'intelligence artificielle, ils ont commencé à jouer avec. Alors je sais pas, peut-être qu'on est plus innovateur ou on a moins de crainte de l'innovation, en tout cas, moi, les équipes sont mises à...
Ça peut être une explication.
Si on regarde l'ensemble des chiffres, je ne vais pas vous inonder de chiffres, mais ils sont toujours un peu plus bas en pourcentage par rapport aux chiffres, qu'ils soient positifs ou négatifs, par rapport à la moyenne mondiale, certains étant très proches. Et le troisième enseignement...
Oui, vous disiez trois points, le troisième.
Voilà, et le troisième enseignement, c'est que les dirigeants disent... on estime, alors c'est 71% pour les Français, et là encore, chiffre un peu plus bas que la moyenne, qui est dans les 85%, estime que il faudra de nouvelles compétences avec l'intelligence artificielle. Je vous donne un exemple. Quand vous vous adressez à un outil d'intelligence artificielle, la façon dont vous allez faire une requête, l'écrire, la formuler, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Ça demande.
Il va falloir apprendre à utiliser la machine.
Absolument.
Et s'adapter à elle.
Et ce sont des nouvelles compétences.
Et ça va être compliqué?
Non, mais ce sont des nouvelles compétences.
Voilà.
C'est juste en résumé, plus vous allez lui donner d'informations, plus la réponse sera pertinente. Si vous êtes très laconique dans la question que vous posez, vous n'aurez pas forcément la réponse que vous souhaitez.
Merci Jean-Christophe Dupuis d'avoir eu la gentillesse de venir ce week-end pour nous expliquer ça, parce que ça a un impact, et l'enquête le prouve quand même, par rapport au travail. Je vais vous parler d'une start-up, et c'est le principe dans cette émission, une fois par semaine. On donne un coup de projecteur à une jeune pousse, qui réussit, et c'est le cas aujourd'hui avec Olis, la start-up.
BFM Business, le club média RH, la start-up qui recrute.
Oui, j'ai oublié de dire la start-up qui cartonne et qui recrute, bien sûr. C'est le but de l'opération. Alors, je suis ravi de vous rencontrer. Bonjour Martin Beignet.
Bonjour Alexandre.
Alors, vous êtes le cofondateur et président de Olis. C'est une plateforme, vous me dites si je me trompe, qui permet de développer au mieux les produits.
Les produits, ouais.
Ça, c'est vague, ce que je dis.
C'est très vague. Donc, le produit, en fait, on parle de quoi? On parle de nos t-shirts, de nos téléphones, potentiellement du sandwich qu'on a mangé ce midi. Tous les produits de consommation qui représentent 60% de l'impact environnemental mondial. Le problème, c'est que pour les améliorer, il faut prendre en compte les matières premières, la logistique, toutes les étapes de production. C'est ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. Et c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, du coup, c'est assez complexe. Ouais. Et donc nous, on arrive avec notre plateforme qui a été assez boostée par de l'intelligence artificielle et qui va aider justement les collaborateurs à aller plus loin. Et on vient d'en parler.
Prenons un exemple concret là aussi.
Et un exemple concret, un t-shirt, c'est un produit qu'on connaît tous.
Oui.
Le t-shirt, il y a du fil, du coton qui vient peut-être d'Inde, qui va ensuite être tissé, être teint pour ensuite être confectionné en t-shirt. Et puis ensuite, on va le porter, on va le laver. Donc là encore, on va consommer de l'eau, de l'électricité, de la lessive. Puis on va le jeter, et donc là peut-être un recyclage autre. Et pour chaque étape, on va quantifier différents indicateurs environnementaux, du carbone, CO2, de l'eutrophisation sur la pollution dans les cours d'eau, et aussi des impacts sociaux, pour ne pas oublier l'ensemble des dimensions du développement durable.
Alors au-delà du constat, je me fais l'avocat du diable, au-delà du constat, quel est l'intérêt?
L'intérêt pour les...
D'avoir le détail, de savoir... que là il y a un problème de perdition là, etc., pour la planète. Quel est l'intérêt? Et qu'est-ce que vous apportez, vous?
Donc il y a un triple intérêt pour les entreprises. Le premier, c'est que ça répond à une obligation réglementaire. Donc c'est à la fois des lois françaises et des lois européennes qui vont demander d'avoir ce calcul d'analyse de cycle de vie qui soit fait pour être ensuite fourni aux consommateurs. Et de là découle le deuxième intérêt. Si on fournit l'information aux consommateurs, et ça devient une information qui est différenciante. Les consommateurs, ils vont avoir le choix entre un produit qui est peut-être noté A sur le plan environnemental, un produit qui est noté B. Mais évidemment, il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte.
Ils seront informés en tout cas.
Ils seront informés, et donc un produit A a plus de chances d'être acheté ou d'être acheté plus cher.
Alors, vous recrutez, c'est ce que je disais, on est là pour vous aider. Qui recherchez-vous? Comment peut-on vous aider?
Donc on recherche à la fois des personnes qualifiées en développement web et en intelligence artificielle. C'est un peu le cœur de notre plateforme.
Ouais.
On a également...
Développeur full stack senior.
Senior, c'est ça, pour pouvoir vraiment nous aider à scaler et à passer à la vitesse supérieure. Le deuxième poste, c'est sur l'aspect conseil en environnement. Mmh. Et le troisième poste, c'est vraiment un poste de chargé de vente pour pouvoir aller...
Responsable des ventes.
Responsable des ventes avec les entreprises.
Alors, je disais que vous êtes une start-up. J'ai oublié de donner la date de naissance de Hollis avec un H, H-O-L-I-S. Elle existe depuis quand, Hollis ?
Depuis fin 2022.
Oui, c'est un vrai bébé.
C'est un vrai bébé, mais un bébé qui a déjà une quinzaine de clients, des grands comptes comme des petites boîtes.
Vous êtes installé où ?
On est installé à Station F. On fait d'ailleurs partie de la sélection Future 40. Qui récompense les meilleures startups du campus.
D'accord.
Et on a récemment été reconnu par l'UNESCO sur le plan de l'intelligence artificielle pour notre contribution au développement durable.
Vous avez combien de collaborateurs vous
On est une équipe de 7 personnes.
7 personnes. Et combien de postes ça fait au total à pourvoir ?
Là, on a 3 postes.
3 postes immédiatement ?
Plutôt courant de l'été, mais d'accord. On prend les candidatures à partir de maintenant.
Bien sûr, c'est maintenant qu'il faut trouver.
C'est ça, exactement.
Les profils, l'idéal, on parlait des valeurs tout à l'heure avec Partner Group, quelles sont les valeurs à partager pour rejoindre Helios ?
Donc évidemment, on est une boîte dans l'environnement, donc on va chercher quand même des gens qui ont un
Hollis.
Et Hollis, effectivement. Et après, des gens qui sont compétents et qui ont envie d'apprendre. On est une boîte qui évolue très vite. Il y a toujours des nouvelles missions, et ça, c'est super important d'avoir une grande capacité d'adaptation.
Et enfin, bien sûr, la question, c'est la question financière. Vous avez des atouts. Quels sont les plus, en un mot, deux mots?
Donc là,
de Hollis.
Pour les premiers employés qui rejoignent une start-up, c'est toujours la possibilité de rentrer au capital. Et donc ça, c'est des bénéfices derrière si on devient, ce que j'espère, une assez grande entreprise.
D'arriver au début de l'aventure.
D'arriver au début de l'aventure.
Pouvoir prendre des places et se tracer dans l'avenir, c'est ça, j'imagine ?
Exactement.
Vous avez des capitaux qui sont entrés dans votre société ? Ou vous êtes en fonds propres ?
On est en fonds propres depuis le début. On a bootstrappé, grâce à nos clients, on n'a pas eu besoin de financement externe. On pense le faire dans les mois qui viennent pour pouvoir aller encore plus vite et encore plus loin.
Merci Martin Beignet. Donc vous êtes la société Hollis, H-O-L-I-S, la start-up des postes à pourvoir. Merci Jean-Christophe Dupuis. Monsieur Microsoft 365, c'est lui, regardez-le bien. Avec votre enquête. Et merci Aurélie Gobinet. N'oubliez pas, prenez exemple sur Partner Group. Groupe Partner, une entreprise familiale française qui cartonne dans l'emploi et dans l'intérim avec l'art dans l'entreprise. Voilà, on était ravis de vous avoir. Vous pouvez aller sur mediarh.com, bien sûr, pour retrouver les contacts et pour revoir l'émission. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis au bon week-end prochain avec d'autres invités, bien sûr. Salut.
BFM Business, le Club Média RH, la parole aux entreprises qui recrutent.